Bonjour. Alors, dans cette exploration des bibliothèques et des canons dans laquelle nous sommes lancés, je crois qu'il est important d'aller regarder ce qu'il y a derrière les bibliothèques, hein, les parties cachées que l'on met un peu en retrait, le second rayon, hein, comme on l'appelle. Et je suis donc extrêmement heureux d'accueillir dans ce séminaire l'un des tout meilleurs spécialistes du second rayon des bibliothèques littéraires, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de le désigner ainsi, Mathieu Letourneux, hein, qui est professeur de littérature française à l'université Paris-Nanterre, et qui est, c'est assez rare au bout du compte dans le paysage universitaire français, le spécialiste de tout ce qu'on n'ose pas lire, de tout ce qu'on n'ose pas dire qu'on lit. À savoir ces fictions de série B qu'on ne met pas peut-être à l'avant, en particulier de l'enseignement scolaire ou universitaire. Et Mathieu Letourneux est l'auteur de livres très importants, et je dirais même essentiels, hein, sur ce domaine-là. Je cite d'abord un livre sur le roman d'aventure, qui était sa thèse, je pense, entre 1870 et 1930. Un livre avec Jean-Yves Mollier sur la librairie Talendier, hein, grande librairie d'édition, grande maison d'édition populaire, hein, entre 1870 et 2000. Un livre sur Fantomas et surtout son dernier livre qui a vraiment marqué, je crois, qui est un livre très important à la charnière de l'histoire littéraire et de la théorie littéraire, hein, Fictions à la chaîne, littérature sérielle et culture médiatique, paru au Seuil dans la célèbre collection poétique dirigée par Gérard Genette. Mais Mathieu Letourneux ne fait pas que réfléchir sur ces littératures sérielles, populaires. Il les fait connaître, il les édite, et donc il a déjà édité, réédité de très nombreux textes perdus ou oubliés de ces grandes séries fictionnelles. Mais en particulier, je n'en voudrais rappeler qu'une seule, Mathieu Letourneux a réédité avec Loïc Artiaga toute la série des Fantomas, qui n'était plus disponible, Fantomas de Pierre Souvestre et Marcel Alain, et donc qui maintenant sont présents à nouveau, et pour notre plus grand plaisir, dans les bibliothèques. Donc Mathieu Letourneux est un sauveur de bibliothèques, un sauveur de livres, et c'est vraiment à ce titre que je suis extrêmement heureux et fier de l'accueillir ici pour une intervention qui va se situer, je pense, exactement dans le prolongement à la fois de son travail et puis de notre séminaire, qui s'intitule une conférence Bibliothèque des grandes aventures et rayonnage SF dans le couloir, collection et canonicité dans les productions sérielles.
Alors d'abord, je te remercie, William, puisque ça a été difficile de venir jusqu'ici, puisque je devais faire cette conférence une première fois le 1er avril, et tu m'avais dit que ça ne sera pas un poisson d'avril. Et puis le confinement m'a prouvé que tu étais capable de faire des poissons d'avril extrêmement sophistiqués. Et puis je devais venir en janvier, et j'ai été qu'à contact, donc on a dû à nouveau annuler. Donc je te remercie, au moins pour ta persévérance, de m'avoir recontacté. Alors je voudrais réfléchir ici aux bibliothèques imaginaires de la culture populaire. Et pour cela, suivant ta métaphore, je partirai des bibliothèques réelles, dans leur matérialité, pour en déduire une relation aux bibliothèques invisibles, aux bibliothèques mentales, mais aussi aux bibliothèques universelles et aux bibliothèques culturelles qu'induisent ces modes de classement. Après tout, la manière dont on range nos livres nous dit quelque chose du sens qu'ils prennent pour nous. Sur les rayons d'une bibliothèque, leur alignement dessine notre portrait chinois, de même que celui de nos goûts, de nos héritages, mais aussi de nos hiérarchies. Autrement dit, ils décident une culture qui n'est pas seulement la nôtre, mais celle collective dont nous héritons. Les livres qu'on expose, ce que l'on jette, ce que l'on conserve mais qu'on relègue dans un coin de son appartement, composent ainsi un texte que l'on peut déchiffrer en parcourant les rayonnages et la disposition des bibliothèques dans l'appartement. Ce texte est une mise en récit qui peut être assez éloignée des goûts réels de celui qui a disposé ainsi sa bibliothèque. Cette manière de mettre en scène, de scénographier une conception personnelle de la culture, communiquent à partir d'une langue commune, celle de la culture collective, de ses centres et de ses périphéries, de son canon et de sa marge, de ses productions distinctives ou non, consensuelles ou non, avouables ou non. Dans ce système de classement des livres, il y a des distinctions évidentes, comme celle qui sépare la littérature des essais, celle qui conduit à ranger les livres de recettes dans la cuisine ou à placer la littérature de jeunesse dans la chambre des enfants. Il y en a d'autres plus discrètes qui ne sont pas moins significatives. Ainsi en est-il des classements des romans populaires, souvent rangés à part dans les rayonnages. Ce sont les bibliothèques de romans populaires, réels ou imaginaires, cachés ou exposés, que je voudrais évoquer dans cette conférence. Il me semble en effet qu'il existe deux traits qui les caractérisent, sur lesquels j'insisterai. Le fait de classer les romans par genre, policiers, science-fiction, romans d'amour, etc. Et le fait, en tout cas jusqu'à une période récente, de reléguer ces bibliothèques peu légitimées dans des coins plus discrets de l'appartement. La première caractéristique des bibliothèques publiques ou privées de romans populaires, c'est donc qu'on les classe souvent par genre, en les séparant d'ailleurs de la littérature générale. Rayon policier, science-fiction, établissant de fait une distinction aussi bien matérielle que mentale entre deux types de bibliothèques littéraires. Modiano évoque ainsi des rayonnages de livres encastrés dans les boiseries où ne s'alignaient que des romans policiers. Couverture jaune du masque, série noire, collection anglaise, américaine. On apprend ailleurs que dans la maison de Magritte, un hall privé minuscule renferme le porte-manteau et un rayonnage supportant des romans policiers. Ce n'est pas une bibliothèque littéraire que découvre le visiteur, mais un fragment cohérent de bibliothèque, une bibliothèque de genre, une bibliothèque thématisée. Parfois, le classement est plus pointu encore, comme dans cet autre récit de Modiano, décidément amateur de bibliothèque de genre, dans lequel l'amateur de romans policiers se concentre sur une collection de genre seulement. L'ombre de ce. Alors, il y avait là tous les livres de la collection du masque, nous dit le texte, je passe le début. Qu'une bibliothèque privée puisse se consacrer entièrement aux livres, ou en tout cas qu'une partie de bibliothèque privée puisse se consacrer entièrement aux livres d'une seule collection de romans policiers n'a de sens que dans le cas d'un pacte de lecture passé entre le lecteur et l'éditeur, qui suppose que aimer les romans du masque, c'est se fier à une unité discursive, voire un effet doctorialité qui est celle de la collection plus forte que chacun des auteurs qui y sont publiés. Or, cette manière de lire et de classer les livres par collection, par série ou par genre est révélatrice d'une manière d'appréhender les romans populaires. Ce qui meut le lecteur amateur d'une collection ou d'un genre, c'est un double mouvement contradictoire d'attachement à la similitude des œuvres et de recherche de la variation. Si l'amateur achète régulièrement un nouveau roman du masque, c'est qu'il aime l'unité éditoriale et les conventions narratives et thématiques de la collection. Mais c'est aussi qu'il espère un plaisir renouvelé. Sinon, il n'achèterait pas un nouveau livre. C'est en tout cas à cette relation qu'invitent les éditeurs, promettant à la fois la stabilité d'une collection et la variété des œuvres qui la composent. Alors, je vous laisse cet exemple rapidement que je ne commenterai pas, mais... qui est un exemple type de ce dialogue. À vrai dire, cette pratique consistant à lire dans une collection et à se fier à son unité discursive est très courante depuis l'entre-deux-guerres au moins. Mais elle entre en écho avec d'autres pratiques qui correspondent à autant de bibliothèques mentales. L'amateur de romans harlequins, de romans de la série San Antonio ou de romans policiers aime l'ensemble de leur rayonnage imaginaire plutôt qu'une œuvre particulière. À chaque fois, le renouvellement d'une expérience originale dialogue avec le cadrage de l'unité de la série. Et de fait, on comprend à quels mécanismes effectifs de lecture correspond cette manière de classer les livres et de les considérer. On peut le montrer à partir de l'exemple d'un livre de la collection de la Bibliothèque des Grandes Aventures, et j'ai choisi ce titre de collection à dessein, puisqu'il indique que les livres doivent bien être saisis comme une bibliothèque du genre. J'ai choisi un roman qui n'est pas resté fameux, Le Tigre du Rio Grande, un roman d'Albert Bonneau paru dans cette collection en 1932. Il me semble qu'il permet, mais n'importe quel autre roman aurait permis de le faire, de comprendre à quelle lecture invite cette littérature sérielle. La couverture et le titre annoncent clairement un roman de l'Ouest, d'autant qu'à l'époque, les films du Far West occupent une grande partie des écrans français. Quand Albert Bonneau, dans son roman, prend la peine d'indiquer, à propos de ses personnages, je cite, qu'ils se tenaient auprès de la ligne de Pecos à El Paso, derrière eux, à peu de distance, coulait le Rio Grande del Norte, qui sépare les États-Unis du Mexique, une telle phrase qui résume, en termes de description, les informations les plus importantes ici, suffit largement à camper l'univers du roman. En effet, les toponymes visent moins à désigner un espace réel qu'à renvoyer à des lieux types du western à l'époque, du roman du film du Far West. Il y a déjà eu plus de 20 films du Far West évoquant le Rio Grande dans leur titre à cette date. Et plusieurs déjà, le Pecos, mais faute de place, je ne l'ai pas indiqué. Dès lors, pour le lecteur, qui n'a généralement jamais mis les pieds en Amérique, il s'agit là d'un décor de film, désignant autant un espace qu'un ensemble d'actions et de conventions qui lui sont associées, ceux des films du Far West. Nul besoin de décrire, tout est déjà là. Le train, les outlaws, le désert, mais aussi le grain du film et ses cadrages. Et la couverture est tout à fait parlante de ce cadrage cinématographique. La richesse du monde ne vient pas du roman, mais de la bibliothèque formée par les autres récits du même genre qu'il convoque et que le lecteur mobilise, enrichissant le texte de leurs souvenirs. Et ce monde est aussi une encyclopédie de récits possibles. En lisant, le lecteur repère des phrases qui ont une valeur de construction de relations intertextuelles. Que le train approche, que les hommes soient prêts, qu'ils soient dissimulés derrière les rochers et prêts à bondir tels des fauves, tout cela indique une série de scènes types que tout lecteur de l'époque identifiera, celle d'une attaque de train. Ces éléments le projettent déjà dans la suite du récit, produisant du suspense ou de la tension narrative. La densité du récit, la densité du monde sont assurées hors du texte par la bibliothèque des références littéraires et médiatiques que le texte convoque à travers ces stéréotypes qui, loin d'appauvrir en quelque sorte l'expérience de lecture, l'enrichissent considérablement. Nous retrouvons ici la bibliothèque, mais nous avons glissé de la bibliothèque réelle à la bibliothèque mentale, à la bibliothèque cognitive, celle des références que le lecteur possède en lui, références auxquelles il recourt dans l'acte de lecture. Cette bibliothèque imaginaire est mobilisée à tout moment face aux fictions et aux récits médiatiques et contribue largement à notre jouissance de lecteur et de spectateur puisque nous anticipons et sommes surpris de voir nos attentes déjouées et que nous relançons sans cesse le jeu herméneutique dans un dialogue actif qui contribue très largement à notre plaisir. L'œuvre de genre stéréotypée n'existe jamais seule. Elle en appelle à une masse d'autres œuvres avec lesquelles elle interagit et dialogue en permanence et qui structure très largement notre plaisir esthétique. Mais en réalité, ces œuvres que le récit nous invite à mobiliser dans notre acte de lecture ne sont jamais vraiment déterminées. Nul besoin d'avoir vu les films se déroulant dans le Rio Grande pour identifier les références convoquées par les stéréotypes du roman d'Albert Bonneau. Parce que la bibliothèque imaginaire qui est mobilisée ici n'est pas tant composée d'un ensemble d'œuvres identifiées que d'une masse de récits dont nous avons entendu parler, que nous avons croisé sans les lire ou les voir, d'images fugaces, d'affiches de films, de fragments de romans feuilletons que nous avons parcourus un jour. Souvent même, nous n'en avons connaissance que par ouï-dire. Dans la mesure où les œuvres se citent, se reprennent, se pastichent, se parodient, s'imitent, bref, dans la mesure où elles dialoguent constamment avec les autres œuvres, nous pouvons nous contenter de fragments, puisque ceux-ci sont eux-mêmes saturés par les références à d'autres œuvres. D'ailleurs, les auteurs non plus ne se réfèrent pas à des ouvrages particuliers, mais à la bibliothèque elle-même. Autrement dit, ils mettent en jeu les mêmes mécanismes que les lecteurs. Leurs références sont globales, flottantes, culturelles, pour le dire vite. Elles ne sont pas très différentes des nôtres quand nous sommes captivés par le roman parce que nous en identifions les stéréotypes et anticipons sur les éléments d'intrigue sans trop savoir d'où nous vient cette connaissance et d'ailleurs sans nous en préoccuper. L'écriture et la lecture interagissent non avec des œuvres particulières, mais avec un ensemble d'œuvres, une bibliothèque aux contours indéterminés. Cette bibliothèque imaginaire, composée de stéréotypes, d'amorces d'intrigues, de séquences narratives, de décors et de personnages types, s'organise en genre et en système sériel, produisant des cohérences globales, des attentes et des effets de vraisemblance. Ce sont ces cohérences qui déterminent la manière de raconter, de lire et plus largement de découper la réalité en systèmes de signification qui forment la matière de notre culture. On voit que ces bibliothèques imaginaires correspondent à une définition de la culture, c'est-à-dire de cette culture qui, au sens fort du terme, soude une collectivité à partir de récits, d'images et de représentations partagées. Et c'est dans cette culture que nous inventons nos bibliothèques personnelles, fragments subjectifs accumulés au fil de l'existence et composant à la fois nos identités propres et notre manière de lire et de dire le monde. Certes, cette culture dont je parle n'est que marginalement composée de créations majeures. C'est surtout une culture médiatique et commerciale, cherchant la séduction du lecteur à travers des ficelles, des simplifications, des procédés éculés. Mais enfin, dans la mesure où cette culture médiatique et commerciale n'a cessé de croître depuis le feuilleton du XIXe siècle, au point de devenir depuis longtemps le cœur de nos expériences esthétiques quotidiennes, il convient de lui reconnaître la nature de bibliothèque imaginaire dont nous héritons en partage. Simplement, pour le chercheur qui s'y intéresse, ce modèle de bibliothèque n'est pas celui soigneusement constitué du lettré, ni même celui de la bibliothèque d'Alexandrie conservant la mémoire du monde. Il s'apparente plutôt à un grenier en désordre, à un vaste ensemble d'images et de textes circulant de manière chaotique dans lequel nous sommes immergés sans y faire vraiment attention. La définition très commerciale de cette culture que je viens de proposer peut sembler quelque peu stigmatisante. Pourtant, c'est à dessein que je me réfère à des métaphores empruntées à la consommation médiatique et marchande qui dominent aujourd'hui nos expériences culturelles. En effet, à travers l'opposition d'une culture médiatique et marchande d'une part et d'une haute culture d'autre c'est à travers l'opposition de cette culture marchande d'une part et d'une haute culture d'autre part que se sont largement définies nos sociétés durant la majeure partie du XXe siècle, produisant en un sens deux types de bibliothèques bien distincts dans les espaces réels et imaginaires. Ainsi en était-il de la manière dont les bibliothèques publiques et les librairies ont pu longtemps classer les livres. Les premières, les bibliothèques publiques, ont par exemple longtemps rechigné à offrir de la littérature de genre à leurs lecteurs. Et quand elles l'ont fait, l'usage était de reléguer ces productions dans des espaces moins centraux, un peu à part, sous la fenêtre ou dans un coin reculé, et les manuels de bibliothécaires l'indiquaient, y invitaient explicitement. De même, les librairies se partageaient entre commerces de centre-ville, souvent hostiles à ce type de production, et libraires plus populaires, offrant ces livres au milieu d'autres marchandises. Une telle opposition recouvre en partie la fameuse fracture moderniste, ce que les anglo-saxons appellent le « Great Divide », entre haute culture et culture de masse, ou ce que Clement Greenberg distinguait à travers les concepts d'avant-garde et de kitsch. La première, l'avant-garde, se donnait pour tâche de renouveler les formes et de réinventer l'art, quand le second, le kitsch, imitait et standardisait les avancées de l'avant-garde. La première se devait alors de refuser les contaminations de la seconde, ce que soulignait de façon assez plaisante, par exemple, encore en 1997, donc fort tard dans notre histoire, Jean Vautrin, par exemple, dans un entretien dans les temps modernes, à travers une image mêlant le classement des bibliothèques et l'économie de la valeur dans le champ littéraire. Il y a eu bien des rentrées d'automne où, sur les rayonnages des bibliothèques, on ne laissait pas un Gallimard blanc fréquenter une série noire. Voilà une opposition bien manichéenne. Cette distinction possède une histoire qui est autant éditoriale que symbolique, qui est indistinctement éditoriale et symbolique, et qui construit autant qu'elle en résulte un processus de disjonction entre haute culture et culture de consommation. C'est dans l'entre-deux-guerres que les collections populaires de genre se sont développées et celles-ci ont été diffusées dans d'autres réseaux de distribution que ceux de la littérature générale. Par exemple, dans les kiosques à journaux, dans les épiceries et les merceries, jusqu'aux années 1920-1930. Après la Seconde Guerre mondiale, de la même façon, la relance de l'édition populaire se fera par de nouveaux acteurs du monde de l'édition, le Fleuve Noir d'Armand Caro, les Presses de la Cité, qui diffuseront leurs collections populaires ou d'espionnage dans les kiosques. Alors ici, c'est un exemple de Gallimard, mais c'est parce que je n'ai pas trouvé d'exemple du Fleuve Noir et des Presses de la Cité. Dans les kiosques, dans les bureaux de tabac, les drugstores et les stations-service. Les réseaux de distribution de l'édition populaire et de la littérature de genre n'étaient longtemps donc pas ceux de l'édition littéraire, et ces ouvrages étaient vendus dans les marges du commerce du livre, perdus entre des paquets de chewing-gum et des magazines de mots croisés. Et pourtant, ce sort n'était pas tant le résultat d'un processus d'expulsion que l'expression de choix commerciaux des différents acteurs de la chaîne du livre et de modes de consommation différents. Si cette littérature n'était pas vendue dans les mêmes réseaux de distribution, c'est aussi parce qu'elle n'était pas destinée aux mêmes usages. De fait, la nature différente des lieux de distribution désignait aussi un imaginaire littéraire distinct. Mercerie, drugstore, tabac, station-service, kiosque à journaux, ces espaces n'étaient pas ceux avant tout du livre, mais ceux de marchandises générales, au moment même où s'affirmaient de plus en plus nettement des discours visant à opposer la sphère de l'art et celle des marchandises. Et de fait, la vente en série de petits romans de genre dans des collections standardisées accompagne en France le développement des marchandises standardisées elles-mêmes, puisqu'elles s'inventent au même moment. Vendu dans des espaces marchands, le livre adopte en effet toute une série de caractéristiques propres à la marchandise standardisée. Format identique, collection à l'apparence identifiable, couverture valant pour tract publicitaire, prix apparent, genre rassemblant les ouvrages par traits communs, comme le faisaient à la même époque les rayons spécialisés, personnages récurrents fonctionnant comme des marques, après la Seconde Guerre mondiale en particulier, les livres sont classés en gamme de produits pour permettre un choix comme les autres produits de consommation. L'éditeur favorise la marque, la collection, le genre, la série à personnages récurrents, au détriment des singularités artistiques, et le lecteur choisit aussi dans cette offre commerciale, suivant une logique hédoniste de consommation, assez éloignée des imaginaires du lettré. De fait, cette manière de lire, en rapportant l'œuvre à la série qu'il apporte, exploite dans la relation esthétique la dynamique de relance propre à la consommation, en investissant massivement dans le texte les logiques de désir et de plaisir qui la caractérisent. Le désir d'achat est porté par la série de livres du même genre dans laquelle s'opère la sélection. Le choix du livre est une projection dans le récit à venir à travers ce que promettent les indications stéréotypées en couverture. Puis, une fois la lecture commencée, le désir se recompose en projection dans la suite du récit, portée par la masse des œuvres mobilisées par le jeu des conventions, des stéréotypes. Enfin, le système de stéréotypes procure des émotions esthétiques d'autant plus fortes que le lecteur retrouve à travers lui la trame des imaginaires culturels qui forment le vocabulaire commun de la collectivité. Rien n'empêche alors le lecteur de réduire l'œuvre à un usage instrumental, pur objet de jouissance, consommé et jeté. C'est ce qui explique d'ailleurs la réprobation qui a longtemps touché à l'époque moderne ce type de production. C'est ce qui explique également la deuxième caractéristique, longtemps associée aux bibliothèques de production médiatique, le fait qu'elles ont été longtemps des bibliothèques cachées ou vouées à la relégation. De fait, on sait qu'au cours du XIXe siècle, on a assisté à une condamnation de plus en plus ferme d'une forme de littérature marchande jugée vulgaire, immorale et mercenaire. Ce n'est pas le lieu de retracer l'histoire de cette rupture, mais il suffira de rappeler qu'elle s'est traduite concrètement par la stigmatisation de toute une série de productions populaires, les romans feuilletons, la littérature de colportage, les fascicules, et ailleurs, les dime novels ou les penny dreadful ont régulièrement été stigmatisés, surtout quand ils étaient lus par les femmes ou les ouvriers, et ils étaient même proscrits quand il s'agissait d'éduquer le goût des jeunes lecteurs. On peut tracer une longue histoire de ces lectures inavouables dont les paniques morales successives scandent l'histoire de la presse. L'affirmation des dangers du roman feuilleton dès les années 40, des penny dreadfuls britanniques dès les années 60, 1860, 1840, 1860, des dime novels dans les années 1880, des fascicules criminels et des journaux illustrés dans la France des années 1900, ou encore des bandes dessinées horrifiques dans les années 1940 et 50. Tout cela dessine une galaxie de mauvaises lectures imposant aux amateurs des 19e et 20e siècles des stratégies de dissimulation dont on trouve trace dans toute l'histoire de la littérature populaire. Ces mauvaises lectures un peu honteuses, ces lectures qui ne s'exposent pas, qui n'ont pas place dans une bibliothèque, en tout cas pas dans ces parties nobles, ont pu ainsi durablement dessiner des bibliothèques invisibles, pour reprendre le terme du cours de William Marx, mais au sens propre ici. De fait, lorsqu'il s'agit d'évoquer l'influence pernicieuse des mauvaises lectures, la presse du XIXe siècle et du début du XXe siècle recourt régulièrement à la métaphore de la bibliothèque cachée, dissimulée comme quelques rapines entreposées par des cambrioleurs. On raconte ainsi
Comment on a trouvé dans le pupitre de jeunes écoliers cambrioleurs une série de Penny Dreadful criminels, ces publications populaires de la seconde moitié du XIXe siècle. Ailleurs, on retrouve des dime novels entreposés dans une cachette, entassés pour être lus en secret ou enfouis dans les poches d'écoliers devenus brillants. Ce sont bien des bibliothèques de contrebande qui sont dépeintes ici, d'autant plus dangereuses qu'elles sont dissimulées, échappant au contrôle des adultes ou plus largement des autorités morales. La découverte successive d'un crime et d'une bibliothèque enfantine cachée est un des lieux communs européens et américains du discours sur la littérature populaire entre 1870 et les années 50. En réalité, ces faits divers criminels offrent une version dramatique des bibliothèques invisibles de la consommation des fictions populaires. Dans la réalité, ces bibliothèques masquées ne prenaient pas la forme de bulletins dissimulés sous une latte de parquet, comme dans les faits divers, mais de rayonnages relégués dans un coin de l'appartement, manifestant l'embarras de leurs possesseurs. Il suffit pour s'en convaincre de remonter à une période relativement récente. Je croisais les doigts sur le micro, je pense qu'il y a un moment, on n'entendra pas ce que je dis. Il suffit pour s'en convaincre de remonter à une période relativement récente, comme dans le témoignage du dessinateur Philippe Drouillet, parlant dans son autobiographie des lectures de science-fiction et de bande dessinée. Avant mai 68, les amateurs de science-fiction étaient considérés au mieux comme des originaux. Je passe un peu. C'était pareil pour la bande dessinée, qui était tout juste tolérée comme une distraction pour adolescents idiots. Les adultes qui lisaient ça devaient le faire en cachette pour être tranquilles. Ici, la situation décrite prend des aspects moins sensationnels que dans les faits divers précédents, mais elle s'inscrit dans la même perspective de lecture réprouvée qui oblige à la dissimulation. Longtemps, en tout cas, les bandes dessinées, les romans policiers, la science-fiction étaient entreposés dans un coin discret. Je me souviens par exemple que mes parents gardaient ce type de roman dans les toilettes parce qu'ils ne les présentaient pas avec les autres livres, puis ils les ont relégués dans un coin d'une chambre d'amis à la campagne. Ils n'étaient pas les seuls à procéder ainsi. Dans une interview de 1975, les auteurs de bande dessinée Pierre Christin et Jean-Claude Mézières, créateurs de la série de science-fiction Valérian et Loreline, faisaient en termes crus le constat suivant. La bande dessinée est largement une littérature de chiottes. C'est révélateur que ce soit dans un petit endroit clos où personne ne peut vous menacer, où on se laisse vagabonder, où on se purge de toute la saleté qui nous envahit, qu'on la range. Le principe d'une bibliothèque de toilette combine l'idée d'une lecture dissimulée, c'est-à-dire de la lecture en cachette qu'évoquait Drouillet, et celle d'une lecture vulgaire liée au bas corporel, confirmant du même coup le caractère honteux de cette pratique secrète. Le vocabulaire vulgaire dit le sentiment d'illégitimité des auteurs. Il ferait de la littérature de chiottes, réduisant toute la bande dessinée à une production sans valeur. Mais le vocabulaire employé par Mézières et Christin n'est pas neutre. Par sa vulgarité, il touche à la provocation. La grossièreté des termes vise ainsi à choquer le bourgeois, comme l'indique le retournement final de la situation. C'est dans les lieux d'aisance qu'on se laisse vagabonder et qu'on se purge de toute la saleté qui nous envahit. La citation débouche sur une image de purgation qui rappelle, de manière évidemment volontaire, la catharsis aristotélicienne, mais aussi un peu la farce carnavalesque d'une littérature du pas corporel et de la transgression, celle qu'un Mihai Bakhtin a pu associer à l'œuvre de François Rabelais. Et de fait, cette provocation entre en réseau avec d'autres, issus de journaux de bande dessinée et de science-fiction de la même époque exactement. La même année 1975, pour ne prendre qu'un exemple, j'en avais d'autres, mais je ne voulais pas rester trop longtemps dans les toilettes, le troisième numéro de Fluide glacial mettait en scène, en couverture, un Père Noël sur le trône avec un rouleau de papier sur lequel étaient affichés les noms des dessinateurs du journal, faisant littéralement du magazine une littérature de chiottes. La bande dessinée, l'humour, ailleurs la science-fiction, se revendiquaient comme les lieux d'expression d'un imaginaire du bas corporel, de la vulgarité ou de formes transgressives, la scatologie ou la sexualité trouble. Surtout, le propos s'associait à une dynamique de provocation qui inscrivait la position des auteurs dans une logique de renversement des codes typiques des contre-cultures de l'époque. Nous sommes dans les années 70. Le refus des hiérarchies et des normes s'affichait de manière carnavalesque comme refus des limites, à la créativité, et prétendait investir de nouveaux territoires esthétiques. La vulgarité était reconfigurée en liberté créatrice et en refus du puritanisme de l'époque. Une telle évocation de lecture transgressive en rappelle une autre, plus ancienne, tirée des mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Celle-ci y évoquait une scène de lecture dans des lieux d'aisance, suivant des modalités assez proches de celles qui figuraient en couverture de fluide glacial, puisqu'il s'agissait de lire les morceaux de papier journal servant à l'hygiène avant l'arrivée en France du papier toilette. Souvent, je laissais traîner mon regard sur les morceaux de journaux suspendus dans les WC. C'est ainsi que je lus un fragment de roman feuilleton où le héros posait sur les seins blancs de l'héroïne des lèvres ardentes. Ce baiser me brûla, à la fois mâle, femelle et voyeur. Je le donnais, le subissais et je m'en remplissais les yeux. Ce n'est pas un hasard si cette scène de révélation est associée à un roman feuilleton découvert dans les toilettes, puisqu'elle fonctionne comme un dispositif de lecture proscrite et de transgression, dont on a vu qu'il était enraciné dans l'imaginaire des productions populaires depuis la fin du XIXe siècle. L'espace clos des WC permet la lecture interdite, et ici encore, on tire de cette expérience intime et un peu avilissante un trouble transgressif, d'autant plus transgressif que le lieu n'est évidemment pas étranger aux questions de sexualité. Pour Simone de Beauvoir, cette expérience transgressive est à l'origine de la découverte de la sexualité. Or, comme elle le remarque, cette expérience n'est rendue possible que parce qu'elle connaissait déjà en partie les images qu'elle rencontre dans ce fragment de texte. Assurément, si j'en éprouvais un émoi si vif, c'est que déjà mon corps était éveillé, mais ces rêveries cristallisèrent autour de cette image. Je ne sais combien de fois je l'évoquais avant de m'endormir, j'en inventais d'autres, je me demande d'où je l'ai tiré. La capacité qu'avait Simone de Beauvoir d'imaginer quantité d'autres récits à partir de ce seul extrait de roman feuilleton témoigne de ce que cette littérature stéréotypée est toujours en partie relue au sens où elle s'inscrit dans une culture collective, celle de la bibliothèque imaginaire que j'évoquais précédemment. C'est pour cela que son imaginaire avait pu s'emparer de poncifs, les seins blancs de l'héroïne et les lèvres ardentes, et si malgré la banalité de l'objet rencontré, elle s'en était trouvée profondément bouleversée, il est probable que le contexte transgressif des lectures proscrites ait joué un rôle capital dans la force de l'expérience esthétique. Peut-être plus important encore que le texte lui-même. Et si dans la presse, les moralistes racontaient sans cesse des histoires de bibliothèques secrètes dans les caches des petits voleurs, c'est sans doute parce qu'ils percevaient combien l'acte de lecture de ces productions interdites était un acte d'émancipation et d'affirmation de soi contre les règles imposées et les normes héritées. Car l'expérience des fictions sérielles est toujours une expérience intime. Formulation stéréotypée partagée par la communauté, autrement dit bibliothèque collective, les fictions populaires s'offrent à nous comme un vocabulaire commun dans lequel nous puisons pour produire un discours propre. L'expérience de lecture, de même que cette autre appropriation qu'est l'expérience d'écriture pour l'auteur sériel, quel qu'il soit, ces expériences sont toujours un acte d'appropriation lié à nos lectures passées et à notre histoire propre, lesquelles définissent nos goûts et nos dégoûts, les scènes qui nous marquent, bref, notre identité subjective, celle que constitue notre bibliothèque personnelle bricolée à partir de la bibliothèque collective. On voit qu'il a existé des tensions entre, d'une part, l'importance au niveau intime des dynamiques d'appropriation caractérisant l'expérience des fictions sérielles, et d'autre part, l'illégitimité dont ces productions étaient frappées dans la sphère publique. Cette tension va se retrouver au cœur de la dynamique transgressive des discours contre-culturels des années 1960 et 70. Or, ceux-ci vont jouer un rôle capital dans le phénomène continu de légitimation des productions mauvais genre auxquelles on assiste depuis cette période, au point qu'aujourd'hui, loin de se cacher pour consommer ce type de fiction, on n'hésite pas à faire part de ses goûts pour le cinéma bis, les mangas ou les comics, pour ne prendre que trois exemples. Or, si l'on observe la manière dont ce processus de légitimation s'engage dans les années 1970, au moment justement où Fluide glacial se représentait en journal de papier toilette, on constate que ce processus de légitimation s'appuie précisément sur une réappropriation des signes d'illégitimité, retournée axiologiquement en principe de valorisation des œuvres. Pour le comprendre, il convient de souligner rapidement combien les rayonnages des bibliothèques mentales des jeunes lecteurs des années 50 et 60 se sont progressivement remplis de productions médiatiques avec le poids pris par les créations anglo-saxonnes et leurs imitations européennes dans les médias de masse. Prenant acte de ce que la culture médiatique et la culture de consommation représentaient désormais le cœur des pratiques de l'époque, les contre-cultures des années 60 et encore plus des années 70 s'emparent des modes d'expression de la culture de masse. Le rock, la bande dessinée ou la littérature de genre font ainsi partie des modes d'expression favoris des contre-cultures. Les jeunes qui y recourent peuvent le faire par militantisme, mais aussi par effet générationnel. nés durant la vague américaine, ayant accompagné le plan Marshall, ils ont été nourris de la culture de masse américaine, y voyant par ailleurs l'expression d'une culture générationnelle faisant rupture avec les générations d'avant-guerre. Mais pour faire de cette culture le vocabulaire à partir duquel ils pouvaient affirmer la rupture avec les normes antérieures, encore fallait-il aux jeunes consommateurs reconfigurer les bibliothèques honteuses des générations précédentes pour leur donner une signification nouvelle. Et de fait, à partir des années 60 et 70, certains auteurs se sont mis à utiliser les conventions stéréotypées des fictions commerciales pour affirmer des positions singulières allant bien souvent contre les idéologies dominantes, y compris d'ailleurs celles des fictions commerciales, à l'instar des auteurs de polar politique, de science-fiction contre-culturelle ou de bande dessinée underground. On peut expliquer comment une telle dynamique est devenue possible à partir du cas de Philippe Druyer, l'un des fondateurs de Métal Hurlant, magazine essentiel pour comprendre le tournant contre-culturel des bibliothèques sérielles. Puisque ce magazine, je le rappelle, se propose explicitement de traiter la bande dessinée, le rock et la science-fiction comme des espaces d'expérimentation artistique. Or, c'est bien en termes de bibliothèque mentale que, dans un des tout premiers numéros du journal, Philippe Druyer prend la peine de faire un retour autobiographique alors qu'il n'a que 31 ans et que personne ne le connaît. Ce long autoportrait de plusieurs pages a précisément pour fonction de partager une bibliothèque mentale en lui donnant une signification spécifique contredisant les valeurs associées habituellement aux œuvres. Autrement dit, l'exhibition orgueilleuse des mauvaises lectures se veut un acte contre-discursif, reconfigurant l'acte de lecture en acte de lecture hétérodoxe et en faisant un geste de fondation artistique. De fait, à partir d'une photographie de sa bibliothèque en première page, bibliothèque d'adolescent entièrement composée de romans de la collection du Fleuve Noir Anticipation, alors il faut avoir l'œil d'expert qui est le mien pour les identifier, mais je vous assure, Druyer va proposer une sorte d'autoportrait culturel en énumérant ses lectures de jeunesse. Il associe significativement ces pratiques culturelles à ces longues journées d'école buissonnière. Or, l'école buissonnière, c'est le lieu, le moment de lecture des dime novels, des penny dreadful ou des fascicules criminels du début du XXe siècle en France. Il évoque ainsi les revues pornographiques qu'il volait dans les cabanes de jardiniers, les romans du Fleuve Noir qu'il lisait à la chaîne, les péplums et les westerns qu'il allait voir au cinéma en séchant les cours. Autrement dit, il énumère la plupart des objets considérés comme illégitimes dans les années 1950 et 60 et les associe à une pratique couramment stigmatisée quand on parle de mauvaise littérature, la lecture buissonnière, celle des bibliothèques secrètes associées aux vices et aux tentations criminelles. D'ailleurs, en délinquant en culotte courte, Druyer vole des revues, sèche les cours et consomme de la pornographie. Mais valoriser comme il le fait ces pratiques buissonnières comme la source d'une éducation culturelle, c'est inverser les signes traditionnels de la stigmatisation pour affirmer le geste transgressif comme geste créatif. Pour ce faire, Druyer va sélectionner dans la bibliothèque collective de la culture médiatique un ensemble de productions qui entrent en résonance entre elles par l'opération d'assemblage pour se redéfinir comme culture de transgression. Les collections populaires de science-fiction n'ont en elles rien de transgressif, mais en s'associant à des journaux volés, des journaux pornographiques volés, à des séances de cinéma de quartier, elle s'affirme choix personnel contre les normes et érudition mauvais genre. Et dans ce récit mythique, les lectures et films ouvrent ensuite à des réseaux ésotériques de connaisseurs, ceux des premières librairies spécialisées dans l'horreur, des salles de cinéma bis et des collectionneurs de littérature de genre et des créateurs de fanzines, inventant une sorte de confrérie secrète d'amateurs désireux de définir leur propre système de valeurs. Ce qui se dessine, c'est une culture underground, mais non pas tant celle honteuse des petits voyous de la Belle Époque que celle distinctive qui s'affirme contre les normes bourgeoises dominantes dans une perspective assez proche des communautés artistes du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, bohème, avant-garde ou surréaliste. La signification de cette culture se détermine par la mise en réseau d'objets qui, présentés indépendamment les uns des autres, n'auraient pu prendre une telle signification. Ce qui s'opère ici, c'est la composition d'une bibliothèque choisie qui dessine une nouvelle signification possible pour ces pratiques populaires et qui arrache les œuvres à leur nature de production de masse pour en faire la matière d'un discours contre-culturel. Il s'agit alors d'inventer de nouvelles normes de goût permettant de redéfinir de manière distinctive les productions populaires, et ces normes en passent par l'affirmation de valeurs auteuristes désormais associées au vocabulaire de la culture sérielle. On voit que ces pratiques contre-culturelles mobilisent les trois bibliothèques que j'avais évoquées précédemment à partir des bibliothèques réelles. La bibliothèque sérielle de la collectivité, la bibliothèque individuelle s'appropriant subjectivement des bribes de cette bibliothèque collective et la bibliothèque cachée des lectures transgressives. À partir des années 60, l'articulation de la bibliothèque subjective et d'une logique de transgression a mis en évidence la possibilité, aussi bien pour les créateurs que pour le public, de produire des œuvres et des discours singuliers à partir de la bibliothèque commune des fictions de consommation. En procédant de la sorte, les auteurs et les amateurs ont initié un tournant culturel majeur conduisant à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Ils ont contribué à placer les productions médiatiques au centre des discours culturels. Désormais, la bande dessinée, les séries télévisées, les mangas et comics, la pop musique, enfin la littérature de genre, science-fiction, romans policiers, etc., apparaissent explicitement comme le cœur de notre culture, aussi bien dans les pratiques que dans les discours critiques. C'est le lieu à partir duquel s'affirment les identités et se définissent les répertoires qui dessinent les singularités. On peut le regretter ou s'en réjouir, mais il semble bien qu'un déplacement de fond se soit produit dans le système de classement de nos bibliothèques, imaginaires et réelles, collectives et singulières, visibles et invisibles. Un déplacement qui clôt une longue séquence initiée au début du XIXe siècle, qui voyait s'affirmer l'opposition entre haute culture et culture marchande, qui clôt donc cette longue séquence pour en ouvrir une nouvelle, associant pour l'heure ces deux perspectives et redéfinissant ainsi en profondeur le périmètre de la culture. Merci.